Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron. L'émission sur la métropole grenobloise. Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième émission de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez l'émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. Aujourd'hui dans Gracianopolis, on va parler de l'économie dans l'agglomération en compagnie de Magali Talandier, enseignante et chercheure en géographie à l'Université de Grenoble. Nous sommes toujours ensemble avec Rémi pour mener cette émission. Bonjour Rémi.
Bonjour Yvan. Alors comme tu le disais, on va aujourd'hui dresser un portrait économique de l'agglomération grenobloise. Et je le rappelle juste avant cela que cette émission s'inscrit dans la continuité des trois précédentes au cours desquelles on a souhaité vous présenter les grandes dynamiques de la métropole. Cette quatrième émission complète ainsi une première partie de la saison. Et vous pourrez retrouver dès la prochaine émission des numéros thématiques plus précis décrivant un quartier ou une dynamique particulière ayant des répercussions aux échelles urbaines et architecturales et en lien avec les quatre thématiques des premières émissions qui, je le rappelle, étaient l'histoire de l'urbanisation, la mobilité et les transports, l'habitat et l'économie.
On commence donc immédiatement avec un papier sur l'impact territorial de la crise 2008 et la présentation de l'émission du jour plus poussée par Rémi.
Alors en France, lorsque l'on fait référence à la crise économique mondiale, généralement située entre 2007 et 2010, on évoque la crise de 2008. Elle succède à la crise des subprimes qui a entaché les secteurs bancaires, financiers et immobiliers. Cette crise, prolongée en 2008, a conduit à une chute des marchés boursiers. On parle aussi du krach de l'automne de 2008, ce qui a entraîné un resserrement du crédit pour les entreprises et les ménages, impactant directement l'activité économique en général. La région grenobloise, qui repose plus que d'autres régions françaises sur la recherche et l'industrie, a subi de plein fouet cette crise. Et oui, Grenoble est la deuxième grande agglomération la plus industrielle de France, juste derrière Saint-Étienne. Le secteur de l'industrie concentre 16% de la population active et repose majoritairement sur des capitaux étrangers. Presque la moitié de l'emploi industriel grenoblois est sous pavillon de multinationales étrangères, alors que la moyenne nationale est seulement de 25%. Cette particularité expose davantage les emplois grenoblois aux aléas de la conjoncture internationale. Cette crise a eu de nombreuses conséquences sur le marché de l'emploi et dessine une nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. Certains territoires grenoblois, qui concentrent les populations les plus fragiles par exemple, ont subi la crise plus que d'autres, ce qui impose la mise en place d'outils d'aide à l'emploi et à la formation. Alors au cours de cette émission, on tentera de comprendre dans quel secteur économique l'agglomération est la plus compétitive, où se situent ses activités et quelles nouvelles dynamiques marquent le territoire. On parlera donc d'industrie, de commerce, de recherche et développement, d'agriculture et de circuits courts.
Alors je travaille dans le secteur de l'énergie et je fais une thèse dans ce domaine et je travaille en périphérie de Grenoble, donc plutôt autour de Vars et d'Emmain.
Je travaille dans le social à Échirol.
Sécurité privée, enfin dans Grand Place là, chez Sephora.
À la poste, au centre de tri de Sassenage.
Alors moi je suis ingénieur, docteur en mathématiques appliquées.
Donc je travaille dans l'informatique scientifique,
à Mélan principalement.
Je travaille dans le conseil en énergie, c'est en plein centre de Grenoble, quartier des Antiquaires.
Dans la petite enfance, sur le quartier de la Villeneuve.
L'expertise comptable, Ibans.
Ibans.
Agir.
Et vous travaillez dans quel secteur d'activité ?
Développement informatique.
Pareil. Développement informatique.
Je travaille à la tronche. Je suis directrice de la maison des parents. C'est une maison qui est construite à côté de l'hôpital pour approcher les parents des enfants hospitalisés.
On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Magali Talandier, maître de conférence à l'Institut de géographie alpine de Grenoble, chercheur spécialiste du territoire et de l'économie. Bonjour.
Bonjour.
Alors en économie, Magali Talandier, on n'utilise pas exactement les mêmes termes qu'en urbanisme pour désigner le territoire. Un spécialiste de l'économie aura tendance à parler de zone d'emploi ou de bassin d'emploi plutôt que d'agglomération ou de bassin de vie. Pouvez-vous nous expliquer cette différence avec l'exemple de la région grenobloise ?
Alors c'est vrai que vous avez raison, c'est-à-dire que l'économiste va peut-être se focaliser sur la localisation des emplois, comprendre le marché de l'emploi pour décrire le territoire, alors que l'urbaniste, l'architecte aura une approche plus résidentielle de la question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition entre les deux doit être dépassée, remise en cause. Et l'économie, c'est un enjeu, évidemment, d'emploi, de production, mais c'est aussi un enjeu de résidence. Dans votre micro-trottoir, vous avez interrogé des gens pour savoir où ils travaillaient et quel emploi ils occupaient. Vous auriez pu aussi interroger des chômeurs, des retraités, des enfants qui sont aussi des acteurs du développement économique, en réalité.
D'accord, très bien. Dans l'agglomération grenobloise, attendons-nous un peu plus sur l'industrie. Alors, on connaît l'histoire dans l'agglomération qui est très riche, le gant, la papeterie au 19e, les industries ensuite liées au développement technique telles que l'électricité, la chimie, le ciment. Suite à la crise dont on a parlé dans l'introduction, quelle est aujourd'hui la place de l'industrie et quelle pourrait être sa place dans les prochaines années ?
Alors c'est vrai que l'industrie est encore très présente dans ce territoire grenoblois. C'est un territoire industriel et c'est pour ça que c'est l'une des métropoles qui a connu de sérieuses difficultés en effet durant cette crise. Crise que vous datez entre 2008 et 2010 comme si elle était finie. Je serais moins sûre que vous là-dessus. Je pense que c'est une crise structurelle qui va se poursuivre encore, et structurelle dans le sens où elle repose justement sur la destruction d'emplois industriels. Donc ce territoire grenoblois a une industrie qui est présente notamment plutôt dans des territoires en périphérie, dans des petites communes autour de Grenoble ou sur le Voironnais, par exemple. Et c'est là qu'on a eu les plus grosses fortes pertes d'emplois.
D'accord. Donc cette industrie, elle est constituée de quel secteur d'activité sur Grenoble aujourd'hui ?
Vous avez une diversité de secteurs qui est réelle. Si on parle de l'industrie, si vous voulez, traditionnelle, fabricante, on va être sur des entreprises, par exemple, de chimie. Mais vous avez aussi tout ce qui pourrait être lié plutôt à des activités innovantes, alors qu'on n'a pas envie d'appeler industrie ou qu'on va appeler économie de la connaissance, mais finalement qui constitue aussi cette sphère de production, d'exportation, de fabrication de biens, de services, de concepts, de logiciels. C'est-à-dire que le terme même d'industrie est compliqué aujourd'hui à approcher parce que il est polysémique, l'économie évolue et c'est vrai qu'il ne reste sous le chapeau industrie que des activités de fabrication qui, elles, pour le coup, déclinent, alors même que d'autres activités se développent et elles sont, elles aussi, porteuses de croissance. Ce que je voulais rajouter, par contre, sur ce déclin de l'emploi industriel dans le territoire grenoblois, c'est le fait qu'on n'en parle peut-être pas assez. Alors non pas pour alerter, faire peur, etc., mais pour prendre la mesure des pertes subies et pour vraiment aujourd'hui mettre en œuvre une véritable politique de reconversion industrielle dans ce territoire, comme c'est fait par exemple sur Saint-Étienne. C'est-à-dire, alors la cité du design est un emblème de cette reconversion sur Saint-Étienne. Il faudrait, à côté de tout ce qui est fait sur le registre nanotechnologie, économie de la connaissance à Grenoble, avoir quelque chose aussi de très fort et de très symbolique sur cette reconversion industrielle du territoire.
Ok, très bien. On écoute maintenant Pierre Belliriz, enseignant à l'École d'architecture de Grenoble, qui va nous parler du commerce et des formes urbaines associées.
L'arrivée de l'automobile va renforcer la séparation des fonctions, l'éloignement des fonctions. Mais l'idée de la séparation, de la distinction, elle est déjà à la fin du 19e siècle, pratiquement, y compris de fonctions qui ne sont pas forcément nuisantes, notamment le commerce par rapport à l'habitat. C'est jusque dans les années 1950, il est quand même fortement intégré à l'habitat et il va se dissocier plus tardivement. Le grand magasin commence à annoncer un phénomène de concentration qui va se développer tout au long du 20e siècle. C'est ensuite le centre commercial relativement de proximité, et ça va devenir petit à petit des super, des hypermarchés, des grands centres commerciaux régionaux. Donc Carrefour fait deux centres commerciaux à Grenoble, il y a celui de Mélan et celui d'Échirolles. Et puis après, il y en a d'autres qui sont, alors, qui sont moins périphériques, d'une certaine manière, en tout cas, qui ont été rattrapés en fait, par la ville depuis. Par exemple, c'est Géant Casino à Fontaine. Ils sont dans les communes de la première couronne, ils ne sont pas dans une lointaine périphérie. Le modèle hypermarché, c'est un modèle qui a été importé des États-Unis, selon le principe « no parking, no business », proximité d'un échangeur d'autoroute. Donc accessibilité par l'automobile, visibilité, lisibilité depuis l'accès en automobile. Donc grande enseigne, parking par devant le bâtiment. Ce qu'on voit d'abord, c'est le parking. Le bâtiment compte moins que le parking. Montrer qu'il y a les disponibilités, l'accessibilité, etc. Puis après, il y a un autre phénomène dans les hypermarchés qui est assez amusant, c'est que l'entrée est toujours facile, la sortie, c'est toujours un trou de souris. Alors, c'est le principe d'une boîte fermée, c'est-à-dire qu'il y a quelques entrées et tout se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de vitrine extérieure, il y a une ambiance artificielle et il y a des boutiques qui accompagnent la grande enseigne. Mais au fur et à mesure que l'activité industrielle recule, et puis après l'industrie se concentre aussi dans des établissements de très grande dimension, ils ont leur propre zone très, très spécifique, réservée. Du coup, la frontière entre l'activité artisanale, par exemple, la fonction d'entrepôt, la fonction logistique, ou la fonction tertiaire, ou encore la fonction commerciale, les frontières entre ces différentes fonctions s'effacent petit à petit. Autour de Carrefour Mélan, par exemple, il y a toutes sortes d'activités. Il y a l'artisanat, il y a du bureau, et il y a des vendeurs de voitures. Bon, le strip de l'avenue Gabriel Péri à Saint-Martin-Mer. Ce n'est pas un paysage statique et immuable, c'est un paysage qui change. Petit à petit, il s'organise davantage, il se densifie. Voilà, des activités avec plus de valeur ajoutée, petit à petit, prennent la place d'autres activités.
Suite à cette interview de Pierre Belliriz, qui nous parlait des entrées de ville et des zones d'activité, quel est le modèle économique de ces zones commerciales, Magali Tanandier ? N'est-il pas d'une certaine manière en perte de vitesse ?
Si, on voit bien dans ce qui a été très bien décrit par votre intervenant qu'on est sur un modèle du tout automobile, un modèle de l'extension périurbaine. C'est ça la grande distribution. C'est cette époque-là où on pensait la ville et l'aménagement de la ville comme cela, une consommation de masse, une standardisation quelque part des produits offerts. Bon. Alors, si ça va rester un modèle, en effet, extrêmement présent hein, en termes de volume, de masse commerciale, on sent bien aujourd'hui qu'on est quand même dans une sensibilité un petit peu différente, quoi. Les circuits courts, l'agriculture, un rapprochement, hein, un retour de la proximité pour le commerce, ce sont quand même des choses qui sont... en émergence très clairement. Alors justement, les grands distributeurs ou les personnes spécialisées dans l'observation justement de ces grands distributeurs sentent bien que c'est en train de s'infléchir. C'est-à-dire le modèle de la grande distribution commence à réellement fléchir et commence à essayer d'anticiper la suite avec donc le développement du e-commerce, le développement d'un service de plus de proximité, etc. En termes d'urbanisme, dont c'est le métier, il va falloir penser l'avenir de ces friches, de ces futures friches commerciales. Et là, c'est un très fort enjeu, à mon avis, pour l'architecte et l'urbaniste. Alors, moi, on m'a dit, sous le registre mixité fonctionnelle, qu'on pensait à mettre de l'habitat dans ces zones commerciales. Waouh ! Qui va habiter dans ces logements situés entre un Carrefour et un Auchan, je ne sais pas. Mais plus largement, au-delà de la zone commerciale, je pense que c'est carrément la façon dont on pense l'aménagement des zones d'activité qui doivent être là aussi un petit peu interrogées. C'est-à-dire que l'idée de zone figée, dédiée à un certain type d'activité, me semble plus trop en phase hein, avec l'économie qui est aujourd'hui une question de flux. Et je pense que c'est plus en termes de hub, de plateforme, de structures malléables, réversibles, enfin, tout ce registre-là hein, de mots-clés qu'il faut penser, le commerce, mais aussi le reste de l'économie, en fait.
Très bien, on vient de comprendre les mutations à l'œuvre dans l'industrie et dans le commerce. On fait tout de suite une petite pause musicale.
Artisan dans ma tête, t'es l'une ironise violette. Tu les dessines fières, bien pleines dans mes souvenirs des lunes mondaines. Accrochées aux fenêtres, la pluie menue éclate en cymbales. Il y a des mots par les rues entrouvertes et des rumeurs dans mes larmes de fillette. Artisan de causerie, tu l'as bien dit l'autre matin. On est de pauvres, de rime à rien. Planqué dans ton petit paradis, je te revois y'a pas d'heure pour débouler dans ta vie. Raté, je ne vois que les choses embellies dans tes brassées de couleurs. Tu me dis t'es mal à sortir à ta vie, tes villes et leur ciment de papier. Poseur de toi,
tailleur de tuiles.
Des paysages, des vallées déguisées, peignent des mondes indés, les billes.
Assagis dans tes rues, les rires nous mettaient à nu. Les mots comme des bombes immobiles, on s'habille puis l'on se défile.
Artissance fragile, tu parles de grisante nuit où nous attelons. Porte de chevaux délirants, artifice facile, on n'est plus doué dans nos mensonges. À chaque visage, sa robe d'ombre, balle des nuits et les corps tombent. Balle des nuits et les corps tombent. Planqué dans ton petit paradis, je te revois y'a pas d'heure pour débouler dans ta vie. Raté, je ne vois que les choses embellies.
Nous écoutons le morceau Artisan du groupe grenoblois Pas à Pas.
On passe maintenant aux éphémérides de l'économie. Pour ce numéro, le portrait économique de l'agglomération s'appuie sur des études de l'INSEE réalisées en 2010 et sur le cahier thématique économie-emploi de l'OPSI. Alors Rémi, quelle est la part de l'emploi au sein de la population active à Grenoble ?
Alors environ 90% de la population active dispose d'un emploi, dont 73% en CDI, et le taux de chômage est quant à lui de 10,5%.
Quelles sont les parts d'emploi des grandes fonctions métropolitaines ?
Alors 40% des emplois sont situés dans le secteur de l'économie présentielle. Il s'agit des services à la population comme l'administration publique, l'éducation, la santé ou le commerce. 30% des emplois correspondent aux fonctions métropolitaines liées à l'innovation et à la recherche. 20% des emplois correspondent à des fonctions transversales comme le transport, la logistique ou les métiers liés à l'entretien et à la réparation. Et enfin, les 10% restants correspondent à des emplois liés à la production, principalement de biens matériels ou d'énergie.
Où habitent les personnes qui travaillent dans l'agglomération ?
Alors 90% des actifs habitent et travaillent dans l'agglomération et parmi les 10% restants, environ 8% habitent en dehors de l'agglomération et travaillent à l'intérieur, tandis que 2% font le chemin inverse, ils vivent dans l'agglomération et travaillent à l'extérieur.
Dans l'agglomération alors, où se concentre cette activité ?
Alors 45% de l'emploi total se situe dans la ville de Grenoble, Mélan, Saint-Martin-d'Hères et Échirolles représentent les principaux pôles secondaires. Et il y a en tout 90 zones d'activité qui concentrent environ 40% de l'emploi total. Et les 60% restants sont dispersés dans l'agglomération.
Merci Rémi pour ces éphémérides. On écoute maintenant Sylvie Blanco, professeure à Grenoble École de Management, spécialiste de l'innovation et acteur du nouveau campus en création sur la presqu'île scientifique.
Dans son ensemble, il a tous les grands ingrédients, tous les grands écosystèmes d'innovation mondiaux. Les ingrédients, les piliers principaux, c'est évidemment l'excellence, la connaissance, donc tout ce qui va être lié à la recherche. Le deuxième pilier, c'est l'industrie. Donc on a à Grenoble, je dirais, des leaders industriels, de gros leaders industriels, que ce soit ST, Schneider, mais on peut aussi remonter à des Caterpillar, par exemple. On a un joli tissu industriel, relativement à la taille de à la situation de Grenoble, mais on a un beau tissu industriel. Troisième pilier, la formation, l'éducation. C'est donc tout ce qui va être un réservoir de compétences au service d'une ambition commune à tous ces acteurs, qui est en lien à la création de valeur économique, mais pas que, c'est-à-dire cette création de valeur économique avec de l'innovation, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles entreprises. Elle a aussi une très forte vocation sociale et territoriale. Un point de départ de l'histoire, c'est l'implantation du CEA sur la presqu'île, donc historiquement le CENG, il y a plus de 50 ans. Donc on a le LETI dans les années, on va dire, qui est monté en puissance dans les années 90 avec un modèle de recherche industrielle, c'est-à-dire de très forte collaboration avec l'industrie en vue de, d'innover, donc en vue de diffuser la technologie sur les marchés via des entreprises, via les industriels, et du coup d'avoir un mode de financement qui est différent, qui est donc 50 public, 50 privé, en termes de financement de la recherche. Ils ont initié aussi cette dynamique de start-up. Donc en start-up, on a eu ST. Dans les années 90, on a eu Soitech. Et ça, c'est vraiment la logique du campus Giant, qui est un territoire, un lieu d'innovation, d'attractivité, une très forte cohérence, un très fort alignement stratégique et une forte cohérence dans un projet ambitieux. Les grands projets d'investissement dans du bâtiment, dans de l'équipement, parce que ça fait du campus un vrai territoire d'accueil, de collaboration, de travail pour les entreprises. Il y a des logements, il y a des lieux pour héberger les entreprises. Donc c'est un vrai campus très dense, parce que c'est petit, la presqu'île. Très dense, mais qui est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de travail.
On vient d'entendre une description du modèle dit grenoblois qui articule l'industrie et la recherche. Magali Talandier, quel est ce modèle d'économie lié à l'innovation et à la connaissance ?
C'est en effet, quand on parle du modèle grenoblois, c'est de cela dont on parle, vous avez raison, c'est l'articulation entre acteurs économiques, industrie, recherche et formation. C'est le troisième pilier, avec l'acteur public qui joue un rôle décisif pour mettre aussi ces trois piliers en relation. Alors c'est vrai qu'on est sur un territoire qui a une histoire, qui a un savoir-faire en termes d'innovation, qui a un savoir-faire aussi pour faire connaître cette capacité grenobloise à être innovant. Le projet Giant est un projet symbole, emblématique, qui donne à Grenoble un profil de cité de la connaissance, de technopole, qui est un véritable atout. Donc moi, je ne minimise vraiment pas cet aspect-là de l'économie, cet aspect-là du territoire. C'est un atout, il faut en prendre soin, il faut continuer sur ce registre. Mais par contre, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ce modèle est nécessaire, mais n'est pas suffisant. C'est-à-dire que penser que le développement économique de Grenoble coulera toute seule sur la base de ce type d'économie, ça c'est terminé. Donc cette économie est importante, ce modèle grenoblois, préservons-le, gardons ce cap. C'est une ville vraiment qui est au-dessus des autres, au coude à coude avec Toulouse sur tous les indicateurs de l'innovation, mais par contre, ça ne suffira pas à entraîner toute la population et tous les territoires autour dans un chemin de développement et de croissance. Et l'impact de la crise dont on a parlé précédemment a souligné ce problème-là, cette déconnexion. Donc faisons attention à bien faire en sorte que tous les wagons soient attachés et qu'on soit tous sur le même train, quoi.
On a bien compris, merci. On aborde maintenant la question de l'économie de proximité avec Florence Reiner, conseillère chargée des filières courtes et des circuits courts à la Chambre d'agriculture de l'Isère.
Donc dans le grenoblois, la production elle reste très diversifiée. Il y a une production phare traditionnelle du maraîchage, la ceinture verte de Grenoble. Après, vous avez aussi quand même de la transformation laitière, la production laitière. Il y a quelques élevages bovins. Si on prend le territoire quand même large de la métro, qui est quand même assez important. Vous avez quelques productions de fruits aussi. La production de noix, bah, c'est quand même un peu plus loin du côté de Saint-Marcellin, mais enfin, il y en a quand même à Tulin. Du coup, donc on a ce qu'on appelle la vente directe, c'est la remise directe du producteur au consommateur. Donc on entend par ça vente à la ferme, vente en panier, donc les circuits par exemple AMAP, vente sur les marchés locaux, il y a des marchés exclusivement de producteurs, ou du moins des marchés où des producteurs peuvent participer. Ensuite, vous avez donc le concept des magasins de producteurs, où un groupe de producteurs se rassemble pour monter un magasin type une épicerie, mais qui du coup appartient aux producteurs et vend exclusivement des produits locaux. Ce qu'on peut mettre en avant particulièrement, donc, c'est la fraîcheur, le respect de la saisonnalité. Donc, quelque part, voilà, une garantie pour les fruits, du goût, enfin, de la maturité des fruits, en prenant un exemple. Après, un autre élément qui est vraiment important, c'est de garantir l'équité. En fait, la vente au prix juste du producteur au consommateur. Donc, c'est un des. Au-delà de la proximité géographique qui génère fraîcheur et saisonnalité, il y a cet aspect de, voilà, d'équité et de partage de la valeur ajoutée, quoi. Ce qu'on appelle donc les circuits courts, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et donc là, voilà, ça peut aller de la vente sur des magasins spécialisés, je pense par exemple au Biocoop, à des grossistes locaux, des artisans, des commerçants locaux. Mais par exemple, un marché phare de producteurs à Grenoble, il y a le marché de l'Estacade. Ensuite, donc, vous avez les magasins de producteurs. Par exemple, il y en a un à Voiron, un à Vaurep, un à Saint-Imier, à Bivier, à Pont-de-Clé. Donc du coup, il y a la restauration collective, qui est un marché difficile à pénétrer, mais qui peut représenter un certain potentiel pour une ville aussi dynamique, on va dire, que Grenoble. Donc voilà, c'est un marché qu'on essaie d'exploiter à travers le partenariat avec le Conseil Général, qui a lancé des marchés publics sur les fruits et saisons, les fruits et légumes de saison. Ce qui permet aux groupements de producteurs de pouvoir y répondre. Après, voilà, on essaie du coup de favoriser une démarche collective auprès même des maisons de personnes âgées, enfin, de la santé, donc des hôpitaux, des lycées, et puis pourquoi pas de la restauration d'entreprise, parce qu'il y a quand même de quoi faire justement sur une zone économique dynamique comme Grenoble.
On vient de parler de l'agriculture et des circuits courts. Il y a une autre partie de l'économie qui s'appuie sur les atouts et les attraits du territoire, c'est le tourisme. Alors, quel rôle il peut jouer et il pourrait jouer dans l'économie de l'agglomération grenobloise?
Alors, il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact du tourisme comme secteur économique. Le tourisme en France, c'est majeur. C'est la première industrie au monde. C'est l'an dernier 150 milliards de dépenses touristiques sur l'ensemble du territoire national. C'est un secteur clé de la croissance économique française. On n'est pas dans du mou, quoi. On est vraiment dans du hard, dans des leviers majeurs du développement économique. Et il n'y a aucune raison que Grenoble n'en profite pas, que Grenoble et ses territoires autour n'en profitent pas. Donc on a une carte à jouer sur ce levier-là aussi du développement. Et pour le coup, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait grand-chose. Donc je dirais, quelque part, là, tout est ouvert. On a vraiment un levier d'expansion en termes d'emploi et d'essor qui me semble colossal. Alors, l'émission est consacrée à l'idée de métropole, de métropolisation. Bon, voilà, Grenoble sera une métropole dans laquelle il va y avoir une station de ski. Je pense qu'il n'y en a pas non plus énormément en France. Donc, voilà, c'est des messages forts à envoyer pour faire du tourisme un des leviers essentiels, à côté des autres leviers qu'on a déjà évoqués, du développement économique local.
Très bien, on comprend les leviers pour le développement économique de la région grenobloise. Alors on va passer à notre dernière question, si vous le voulez bien, qui est la question qu'on a l'habitude de poser à tous nos invités ici dans les studios de Radio Campus. Qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise, Magali Tandy?
Alors pour moi, ce que devra être la métropole grenobloise, c'est un territoire équilibré. C'est-à-dire c'est un territoire qui prend conscience, en effet, de sa connexion au reste du monde, mais qui n'oublie pas pour autant la complémentarité, la mise en synergie entre les différents territoires qui va composer cette métropole, dedans et dehors, entre les différents types de populations qui composent cette métropole, les différents types de cultures. Donc voilà, donc c'est rester connecté au reste du monde tout en se souciant de son équilibre interne. Et je dirais que j'aimerais bien vivre dans une métropole dans laquelle des gens qui n'y sont pas ont envie de venir y vivre, s'y installer, étudier, travailler, passer leur retraite, et puis une métropole dans laquelle les gens qui y vivent ont envie de rester. Donc voilà, donc donner envie de venir et donner envie à ceux qui y vivent bah, d'y rester et d'y passer du temps et de bien vivre ensemble cette métropole.
Très bien. Ce quatrième numéro de Grassianopolis touche maintenant à sa fin. Avant de vous quitter, on souhaite remercier donc toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission, qui était consacrée à l'économie de la région urbaine grenobloise. Donc merci à vous, Magali Talandier, d'avoir accepté notre invitation pour enregistrer cette émission dans les studios de Radio Campus.
Merci.
Merci également aux personnes que nous avons interviewées, Florence Reiner, Sylvie Blanco et Pierre Bieliriz. Rémi, nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle formule de Grassianopolis qui, comme tu l'expliquais en introduction, se focalisera sur une thématique plus précise qui a des résonances au niveau urbain et architectural. D'ici là, bonne année 2015 et retrouvez-nous toujours sur notre audioblog Mixcloud, Grassianopolis ou sur Facebook. Merci et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.